des Actes des Apôtres, c'est une étude particulière, parce que le genre, c'est un genre littéraire, c'est un genre historique. On raconte, Paul raconte des événements de sa vie, ou Luc raconte les événements de la vie de l'apôtre Paul. Et on suit l'histoire, simplement, de l'Église au commencement. Alors peut-être vous avez raté l'épisode précédent. Alors comme dans les bonnes séries, je vais vous faire le résumé juste du précédent. Hein. Paul a été arrêté à Jérusalem. Il a été accusé faussement par des Juifs d'Asie d'avoir profané le temple. Alors le tribun Lysias l'a arraché à une mort certaine. Il avait été saisi par des Juifs d'Asie et qui allaient le faire mourir. Avant d'être enfermé, Paul se retrouve debout sur les marches qui mènent à la forteresse Antonia, cette forteresse qui domine au fond le temple et qui avait été construite par les Romains pour pouvoir observer tout ce qui se faisait à l'intérieur du temple. Et là, le tribun Lysias envoie ses soldats, 200 hommes, pour arracher au fond l'apôtre des mains de ces Juifs qui sont très en colère. Et là, sur ses marches, il se trouve juste en hauteur et il a toute la foule devant lui et il va rendre un témoignage extraordinaire. Ça, c'est le chapitre 22. Vous avez déjà vu ça la semaine dernière. Paul, ensuite, Lysias cherche à mieux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tout ce tumulte, pourquoi toute cette agitation. Et alors, il fait convoquer à nouveau Paul et puis il fait convoquer le Sanhédrin. Et tout cela se passe devant le Sanhédrin et Paul doit s'expliquer devant le Sanhédrin et devant Lysias. Et Paul se défend habilement et du coup il paraît tout à fait innocent. Alors les Juifs sont véritablement en colère et ils cherchent par tous les moyens à faire mourir Paul. Et donc ils mettent en place un complot pour tuer Paul son neveu, le neveu de Paul, a eu connaissance de ce guet-apens. Alors il en informe Paul et il en informe aussi Lysias. Et Lysias donc fait transférer l'apôtre Paul de Jérusalem jusqu'à Césarée. Il est envoyé à Césarée avec une lettre de la part de Lysias à l'attention du gouverneur Félix. Et donc le gouverneur Félix essaye à lui à son tour de comprendre la situation et il convoque les accusateurs de Paul pour tenir son procès. Et ça c'est le chapitre 24 dont nous allons faire la lecture à présent. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent, Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens et qui mène même à tenter de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger contre selon notre loi. » Est-ce que on pourrait allumer une lumière Je vois mal sur ma Bible. Peut-être que j'arrive à l'âge de presbytéros. Merci beaucoup. voilà. Mais le tribun. Alors, je suis au verset 7. Mais le tribun. Est-ce que je suis au verset 7 ? 6, merci. Et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, je suppose qu'il s'agit de Lysias, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà un procès. Et aujourd'hui encore, toutes sortes de procès contre les chrétiens se tiennent pour tenter de les confondre, tenter de les déstabiliser. Ils ont lieu parfois, ces procès, dans de véritables tribunaux. On prie actuellement en particulier pour toutes les nations musulmanes, parmi lesquelles les chrétiens sont traînés devant les tribunaux. Parfois, c'est sur les bancs de la faculté qu'ont lieu les procès. Et on prend à partie un chrétien parce qu'il refuse de croire à la théorie de l'évolution ou je ne sais quelle autre chose. Parfois, ces joutes verbales et ces procès ont lieu dans les familles, autour d'un repas. Parfois, ces procès ont lieu sur le lieu de travail. En fait, rien d'étonnant que nous soyons pris à partie dans des procès, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a avertis. J'aimerais lire les paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 16. Matthieu 10, je lis verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ça, c'est la réalité de notre vie. Nous sommes envoyés au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons voir ce matin, si vous voulez bien, l'accusation, nous verrons la défense, et puis enfin nous verrons le verdict. L'accusation est portée par ces juifs du Sanhédrin, la défense, elle est portée par la bouche de l'apôtre Paul, mais comme on vient de le lire, par le Saint-Esprit lui-même. Et puis enfin le verdict, le juge qui est censé rendre le verdict, c'est Félix. Et on verra qu'il aura bien du mal à rendre ce verdict. L'accusation sur les 9 premiers versets qui nous en parlent. Les chefs des Juifs arrivent à Césarée, le souverain sacrificateur Ananias en tête. C'est un homme véritablement méchant. Et il est accompagné d'un avocat hors pair nommé Tertulle. Il est très certainement un Juif avec un nom de consonance grecque, probablement grandissant parmi les païens, dans les nations païennes. La signification de son nom, Tertulle, est incertaine, mais certains l'ont traduit par « triplement endurci » ou alors « triple menteur ». Pas mal pour un avocat. Et 3 chefs d'accusation sont retenus contre Paul. Et on verra à quel point il porte bien son nom. Après plusieurs couches de pommade appliquées sur l'ego du gouverneur Félix, Tertulle lance plusieurs accusations. Et voici les 3 chefs d'accusation qui sont retenus contre celui qu'il qualifie de peste. Ah, ça, c'est quelque chose de terrible. Il est une peste. C'est juste un nom gratuit, voilà, c'est une peste. Alors la première chef d'accusation est le suivant, il excite, verset 5, il excite des divisions et des troubles parmi tous les juifs du monde. Bon, c'est un peu exagéré quand même, hein, parmi tous les juifs du monde. Mais quand même, l'accusation elle est très très forte. Il excite des divisions et des troubles parmi tous les juifs du monde. Les gouverneurs romains étaient en place pour faire observer la Pax Romana, la paix romaine, au travers de tout le monde romain de l'époque. S'ils n'arrivaient pas à maintenir la paix dans la région qu'ils avaient en leur pouvoir, ils étaient simplement virés, parfois trucidés. Alors, vous comprenez que cette première accusation, elle tombe dans l'oreille de Félix avec une extrême attention. Les fauteurs de troubles étaient sévèrement réprimés et encouraient la peine capitale. C'est donc une accusation très sérieuse, mais que Tertulle a du mal à étayer de fait. La seconde accusation, elle est terrible. Il est le chef de la secte des Nazaréens. Voilà, pour qualifier la foi chrétienne, c'est la secte des Nazaréens. Je ne connais pas d'attaque plus répandue contre la foi des chrétiens. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, on m'a fait cette accusation. T'es dans une secte. Quand on a dit cela, on a tout dit. T'es dans une secte. Et pourtant, on n'a rien dit. Mais moi, en tout cas, je me souviens que la première fois que j'ai entendu cela, ça m'a fait mal. Parce que quelque part en moi, je voulais refuser les sectes. Et j'étais contre toute manipulation sectaire ou contre le mensonge. Et quand on m'a dit ça, j'avais clairement à l'esprit que je n'étais pas dans une secte, j'avais moi-même toute la liberté de choisir ce que j'avais cru dans les Écritures. C'était la vérité à laquelle je m'étais rangé. Ça m'a fait mal jusqu'au jour où je suis tombé sur ces versets, en fait. Paul était lui-même accusé de la sorte. Et Jésus lui-même est appelé le Nazaréen. Alors, si on vous accuse d'être dans une secte ou d'être un chef de secte, d'un gourou, je ne sais quoi, pensez à Paul, pensez à Jésus-Christ. Et c'est de cette secte-là à laquelle on appartient, une secte bienheureuse, une secte dans laquelle le chef a donné sa vie. Il n'a jamais rien reçu pour lui-même, mais il a tout donné. Enfin, la troisième accusation, il a tenté de profaner le temple. Et ça, il répète l'accusation sans fondement déjà donnée par les Juifs d'Asie au chapitre 21, verset 28. Et là, je trouve que c'est intéressant encore, cette accusation. C'est-à-dire, on a déjà vu que c'était un mensonge. Mais le fait de le répéter, et de le répéter encore, ça commence à porter et à ressembler à une vérité. Un mensonge répété plusieurs fois finit par prendre une apparence de vérité. Et voilà la stratégie de ces hommes. À une époque, on a dit que les chrétiens étaient des cannibales parce qu'ils se réunissaient le dimanche et qu'ils mangeaient le corps de Christ. Aujourd'hui, on nous taxe de demeurer parce que on ne croit pas en l'évolution. Rien de nouveau sous le soleil. Tertulle explique qu'ils l'ont arrêté, ce qui est faux, qu'ils ont voulu le juger selon leur loi, mais que le tribun Lysias a arraché avec violence de leurs mains. Ce qui est faux également, ce sont les Juifs qui voulaient lyncher Paul sans procès. Les accusateurs prennent souvent de grandes libertés avec les faits pour arriver à leur fin. Et c'est ce que l'on voit ici dans ce procès. C'est exactement la même chose que l'on a vu dans le procès de Christ. Ils ont pris des libertés avec des faits. Ils ont fait venir des faux témoins. Ils ont changé la vérité. Et les Juifs ici ont appuyé ce réquisitoire. Amen, bravo, bien dit Tertulle. Alors, la parole est maintenant à la défense. On voit cela dans les versets 10 à 21. Et Paul rappelle tout d'abord l'expérience de Félix, une expérience de plusieurs années en tant que juge dans les affaires de la nation. Il n'est pas en train de lui poser, de lui passer de la pommade comme l'a fait Tertulle, hein, mais il est en train de dire « Tu es le chef et tu rends la justice depuis des années. » Et il dit « C'est pour cela que j'ai confiance que tu vas rendre encore une fois justice. » Il s'attend à ce que Félix voit clair dans cette affaire. Et il réfute l'une après l'autre les accusations portées contre lui. Il commence avec la première, il dit qu'il n'est arrivé à Jérusalem que depuis 12 jours seulement. Et ça fait déjà 5 jours qu'il est à Césarée, attendant ses accusateurs. Il a fait une nuit en plus en chemin pour s'y rendre. Plusieurs des 6 jours passés à Jérusalem avaient été consacrés au rite de purification. Paul démontre ainsi que même s'il avait voulu, il n'aurait pas eu le temps de fomenter une révolte. Il est venu pour adorer. Regardez les versets 12 et 13. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Voici les faits. Et nul ne peut prouver le contraire. Concernant les accusations de sectarisme, d'être le chef de la secte des Nazaréens, là, Paul utilise la méthode qu'il avait déjà servi devant le Sanhédrin. Il explique qu'il croit tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. C'est intéressant qu'il soulève cela parce que les Sadducéens, c'est l'un des partis membres du Sanhédrin, ne croient que dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, Moïse, la loi. Alors que les pharisiens, l'autre partie en présence dans le Sanhédrin, croient à tout l'Ancien Testament. Et donc déjà là, il commence à semer un peu, effectivement, la discorde entre eux. Il dit « Moi, je crois comme les pharisiens, toute la loi, tous les prophètes !» Et puis il continue en disant, il déclare aussi croire en la résurrection des justes et des injustes. Et là encore, C'était la question qui divisait les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alors regardez au chapitre 23, au verset 6, je lis « Paul, sachant, c'est le premier procès qu'il a eu devant le Sanhédrin, en présence de Lysias, il dit « Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe, écoutez bien, ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment ces deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, j'aime cela, nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ? Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre des soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Même quand il a lancé ce pavé dans la mare, je crois à la résurrection, et les autres ont dit, mais c'est vrai, nous aussi on croit à la résurrection. Et les Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux prophètes, ils ne croient même pas aux anges. Peut-être c'est un ange qui a parlé à l'apôtre Paul pour qu'il nous dise ça. Et vous voyez, ils sont complètement divisés. Paul est en train de dire, je crois comme eux, en tout cas comme les pharisiens. Si secte il y a, c'est plutôt chez les Sadducéens qu'on la trouvera. Un vrai juif, c'est celui qui a reconnu Jésus comme son Messie. Enfin, en ce qui concerne l'accusation de tentative de profanation du temple, Paul répond au verset 17 à 19, et il explique le but de sa venue à Jérusalem. Il a, vous vous souvenez, collecté une large offrande qu'il apporte à Jérusalem pour le secours matériel des croyants de Jérusalem. Et il rectifie les propos de Tertulle qui prétendait avoir empêché Paul de profaner le temple. Mais il dit clairement, ce ne sont pas ces juifs-ci qui viennent m'accuser aujourd'hui, qui m'ont arrêté. Mais ce sont des juifs d'Asie. Et ces juifs m'ont trouvé purifié. J'étais revenu d'un voyage en terre païenne, et quand un juif revenait d'un voyage en terre païenne, il était considéré comme impur, il ne pouvait pas entrer dans le temple comme cela. Il fallait d'abord se purifier, et il s'est purifié, et il est finalement entré dans le temple. Et il dit encore, sans attroupement ni tumulte, personne ne m'a trouvé en train de faire des histoires. Mais en fait, ceux qui m'ont trouvé ne sont pas là aujourd'hui pour m'accuser, parce qu'ils n'ont rien contre moi. Et cela, ils m'ont déjà fait comparaître devant le Sanhédrin, et ils m'ont trouvé coupable de quoi ? De simplement croire à la résurrection des morts. Mais ça n'est pas un délit, ni dans la loi juive, ni dans la loi romaine. Paul, il est cohérent ici. Et il dit, moi je crois à la résurrection des morts. Et parce qu'il croit à la résurrection des justes et des injustes, il s'efforce, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est aussi ce qui peut nous garder face à nos accusateurs, d'avoir ce désir d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors le verdict maintenant. Le verdict, il est clair, il est simple à prononcer. Et si, comme Paul, Félix voulait conserver une conscience pure, ce serait tout simple à donner un verdict. En fait, Félix connaît déjà tout ça. Regardez au chapitre 23, je lis la lettre qui lui a été adressée par Lysias. Verset 26, acte 23, 26. Claude, Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlever, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Félix a déjà reçu la lettre. Il a déjà reçu le verdict que Lysias a rendu. Cet homme est innocent. Il est coupable de rien. Quand Paul a fait sa défense, Tertulle n'a répondu quoi que ce soit. Il était incapable de répondre. Il n'y avait rien à répondre. Il y a une force dans la vérité. Lui, les Juifs du Sanhédrin sont confondus. Ils sont sans argument. Félix, qui est habitué aux affaires juives, a bien compris que les accusateurs mentent sur toute la ligne dans ce procès. Il sait que c'est une affaire de théologie et non une affaire criminelle. Il connaît parfaitement cette doctrine. Verset 22, il nous est dit « Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna. » En plus, sa femme, Drusille, était juive. Donc il était bien au courant de toutes ces affaires. Il est en fait convaincu de l'innocence de Paul. Mais il a peur. Il a peur des Juifs. Peur de leur déplaire et de provoquer du trouble. Et il se retrouve comme Pilate quand les chefs des Juifs voulaient faire mourir Jésus et l'accuser faussement. Pilate, il était embarrassé. Il était convaincu que Jésus était innocent. Il a tout fait ses efforts pour le libérer. Il a choisi, choisissez qui vous voulez prendre, Barabbas ou Jésus. Sa femme était venue lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et cet innocent. Tout le monde était convaincu de son innocence. Et là encore, Félix est convaincu de son innocence, de l'innocence de Paul. Alors, avec une parfaite lâcheté, il ajourna le procès avec ce prétexte, verset 22. « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » En fait, il n'y a aucune indication qu'il n'ait jamais convoqué Lysias. En tout cas, Lysias n'est jamais venu à Césarée pour rendre compte. C'était un prétexte. Lysias avait déjà fait connaître ses conclusions. Paul est innocent. Qu'est-ce qu'il pouvait encore ajouter de plus? Et Félix, il est également convaincu de son innocence. Aussi, d'ailleurs, il ordonne qu'il soit maintenu simplement en résidence surveillée, verset 23. Et l'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Donc il est là, empêché en quelque sorte de sortir de chez lui, mais tout le monde peut venir le voir, il peut quand même exercer son ministère. Les gens peuvent lui rendre des services, lui apporter de la nourriture, des vêtements, etc. On ne fait pas ça pour quelqu'un qui est un coupable. Il était un innocent. Puis, travaillé par cette affaire, il convoque alors son épouse juive il convoque Paul avec son épouse juive pour l'entendre cette fois-ci sur la foi en Christ. Cette expression sur la foi en Christ est lourde de sens. Elle évoque le contenu réel de notre foi, c'est-à-dire la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Sa vie parfaite, sa mort substitutive à la croix, expiant nos fautes, nos péchés, et puis sa résurrection d'entre les morts, preuve irréfutable de la réalité et de l'efficacité de l'Évangile. Il poursuit son enseignement sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement. Et Dieu, et ici c'est la même chose, il continue la prédication de l'Évangile, quand il parle de la justice. Il dit, Dieu exige la justice de tous les hommes à cause de sa sainteté. Et la justice, c'est précisément ce que Félix doit rendre en sa qualité de gouverneur. Il doit agir comme nous tous. Il doit agir justement parce que Dieu est saint et parce que Dieu est juste. Et il ne peut pas en être autrement. Et puis, il évoque aussi la tempérance. La tempérance, c'est cette qualité qui domine sur soi-même pour accomplir et faire ce qui est juste. Quand on sait ce qui est bien de faire, on doit le faire. C'est cela la tempérance. La maîtrise de soi, c'est cela. La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est cette capacité à réfréner constamment nos passions, nos craintes, nos mauvais désirs pour accomplir ce qui est juste. Jacques dit dans son épître au chapitre 4, verset 17, il dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Mes amis, nous aussi, nous savons ce qui est bien de faire ou de ne pas faire. Mais nous sommes dans cette incapacité chronique à faire ce qui est bien et à résister à ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Je sais que vous savez de quoi je parle. L'incapacité à maîtriser nos yeux, l'incapacité à maîtriser nos pensées, l'incapacité à maîtriser nos paroles et nos actions. On doit au fond soit se conformer à la justice, avoir une parfaite maîtrise de nous-mêmes, soit être jugé. Et c'est cela son dernier point. Il parle du jugement. C'est là que la conviction du péché s'est faite pour Félix. Il sait qu'il n'y a pas d'autre issue que celle du jugement ou de l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur. Il est devant ce choix. Il est éclairé. Cet homme est un innocent. Il est en train d'être condamné par des menteurs. Je dois rendre la justice. Je dois le libérer. Je dois le laisser partir libre. Ah oui, mais ils vont me faire de la guerre après, il va y avoir du trouble, et alors je ne vais pas savoir comment expliquer ça à Rome, et Rome va me renvoyer, je ne sais quoi, et je vais peut-être avoir des problèmes sérieux. Tant pis pour la justice. Et là, il montre qu'il est incapable de rendre la justice. Il sait ce qui est juste, et il ne le fait pas. Et notre problème de pécheur, c'est celui-là. On sait ce qui est juste de faire, on sait ce qui est bien de faire, on sait ce que nous devrions faire, on condamne ceux qui ne le font pas. Mais nous-mêmes, on est incapables de le faire. Et c'est parce qu'on était incapables de le faire que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Pour qu'il prenne notre condamnation. Pour qu'il paye pour nos fautes. Si nous pouvions nous maîtriser complètement et vivre une vie juste, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Mais Dieu a envoyé son Fils dans ce monde afin que la justice de Dieu soit satisfaite et que nous puissions vivre éternellement dans sa présence. Mais une nouvelle fois, Félix, effrayé, choisit la voie de la lâcheté avec ces mots. Il dit « Retire-toi de moi ». Retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et bien qu'il fit revenir fréquemment Paul, espérant recevoir de lui ou de ses amis un pot de vin pour sa libération, l'occasion ne se présenta plus pour Félix de se tourner vers Christ et de recevoir son pardon et son salut. C'est terrible. J'ai appelé ce message « L'occasion manquée » ou « Le juge condamné ». Il devait rendre la justice et c'est lui qui va être condamné. Il avait une occasion en or de saisir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et il l'a rejeté. Il l'a laissé. Voilà l'occasion manquée. La conviction de péché était là et il a refusé de saisir l'œuvre de Christ. C'est ici, je trouve, une magnifique illustration de ce verset d'Hébreux chapitre 10. Je vous le lis simplement, Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Il est dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » C'est pourquoi Paul dit en 2 Corinthiens 6, Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est quand Dieu parle qu'on peut saisir le pardon de nos péchés. C'est aujourd'hui, pendant qu'on entend encore le message de l'Évangile, que l'on peut le saisir. William Shakespeare a dit ceci, « Il y a une marée dans les affaires des hommes. Prise dans son flux, elle porte au succès. Mais si l'on manque sa chance, le grand voyage de la vie s'échoue misérablement sur le sable. Or, aujourd'hui, nous sommes à marée haute. Prenons le flot tant qu'il est favorable, où tout ce que l'on a risqué sera perdu. » Et c'est vrai. On peut saisir Jésus-Christ, mais pas quand on le veut, mais quand l'occasion est favorable. Quand le Saint-Esprit plaide dans nos cœurs, au moment où Dieu nous tend la main et nous offre le pardon et la vie éternelle. Combien, comme Félix, ont voulu saisir cela et puis ont tergiversé, et puis les années sont passées ici, il y a 2 ans qui se sont écoulées, et puis il a été muté, et puis il n'y avait plus de témoignages. Et là, il a une occasion de saisir. Shakespeare dit, oui, il y a une marée dans les affaires des hommes. Oui, il y a un moment où la marée est haute et on peut partir. Plus tard, on aimerait partir, mais la marée est basse et tous nos espoirs s'échouent là, dans le sable. Et tout est perdu. Et il en est de même dans la vie des hommes. Dieu plaide. Dieu offre une occasion en or. De pouvoir se réconcilier avec Dieu. On a vu les accusations des détracteurs, on a vu la défense du chrétien dans une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, on a vu le verdict hésitant de Félix, mais on n'a pas encore parlé de l'œuvre de Dieu dans tout cela. Il semble que Dieu laisse Paul se débattre avec la justice des hommes, mais on sait que le Saint-Esprit l'assiste, et qu'il le défend. Puis il le laisse 2 ans croupir en prison. Et pendant ces deux ans, Félix se débat lui-même avec la pertinence de l'Évangile et fait venir une fois ou l'autre Paul pour encore entendre. Peut-être vous êtes également comme Félix. Vous avez examiné les faits concernant Christ. Vous êtes convaincu que s'il y a un Dieu, il ne peut être autrement que juste, que saint. Et sa nature réclame de votre part une vie juste. Mais vous aussi, vous connaissez la faillite dans votre maîtrise de vous-même. Vous faites ce que vous condamnez et vous ne faites pas ce que vous approuvez. Alors vous allez être condamné, à moins que vous saisissiez pour vous-même le salut que Jésus-Christ offre. Il a vécu la vie parfaite que vous auriez dû vivre. Et il a connu la mort infâme que vous auriez dû connaître. Peut-être quelqu'un aujourd'hui est dans cette situation, a entendu, mais n'a jamais fait véritablement cette paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Et je vous propose d'incliner nos têtes et de prier le Seigneur. Ce matin, vous êtes dans cette occasion, peut-être comme Félix, de vous prononcer. Vous avez tergiversé peut-être plusieurs années, plusieurs mois. Vous avez remis à plus tard votre décision. Mais plus vous le faites, et plus lointain semble l'appel de Dieu. Et peut-être ce matin, vous dites, j'en ai assez. Je veux faire maintenant la paix avec Dieu. Je veux être sûr de ma destinée éternelle. J'ai examiné les faits suffisamment longtemps. Je sais que Jésus-Christ est innocent et qu'il s'est offert, lui le juste, pour moi, pécheur, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour m'en donner la preuve. Je sais que je suis un pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné. Et je voudrais l'être, aujourd'hui même. Si c'était votre cas, votre situation, j'aimerais que vous preniez cette décision. Et pour manifester votre décision, j'aimerais que là où vous êtes, vous leviez votre main, je la verrai, je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, aujourd'hui même, je veux être du côté de Christ. Je fais la paix avec lui pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu vois ces personnes. Je te prie pour que tu les bénisses. Qu'après avoir examiné toutes les faits de ton évangile, ils saisissent véritablement Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Qu'ils l'aiment et le suivent jour après jour en comptant sur son soutien, sur sa grâce, sur son pardon, sur l'efficacité de son sang pour nous garder purs jour après jour. Seigneur, je prie pour que tu remplisses leur cœur de ce désir de t'aimer et de te suivre, de te servir, de glorifier ton nom. Je prie pour que tu les réjouisses abondamment de t'appartenir et de pouvoir célébrer les louanges de ta grâce pour l'éternité. Merci Seigneur notre Dieu de faire ton œuvre au-dedans de chacun de nos cœurs, de chacune de nos vies. Donne-nous, je te prie, une conscience pure devant Dieu et devant les hommes pour ne pas chanceler devant les accusateurs. Et Seigneur, on sait que cette conscience pure, on peut l'avoir perdue, mais que à cause du sang de Christ, tu nous purifies tout à nouveau. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin, te demander pour que tu purifies nos cœurs de toute souillure, pour que nous puissions marcher devant ta face librement. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.